Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det snårigt.
Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son. Feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Bourges.
Eller andra och levat livet tills jag krossades en dag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949. Commençons donc cette émission avec la rubrique de Stella Cadente qui nous présente aujourd'hui le signe de la Vierge qui s'étend du 21 août au 21 septembre.
Le type de la vieille demoiselle de province est bien connu. Elle personnifie la province pour les observateurs superficiels qui ne connaissent l'une et l'autre que par les romans. La vieille demoiselle existe à Paris et à l'étranger. Nous avons vu son petit intérieur merveilleusement propre, ordonné, correct. Nous connaissons ses souvenirs enveloppés dans les tiroirs, ses visites fréquentes à l'église, ses peurs et ses doubles verrous aux portes, ses indignations pour tout ce qui n'est pas absolument bourgeois et accoutumé. Comme toute la ville de X, nous la soupçonnons de conserver un maco, de le soigner et d'en faire le plus important de ses soucis. Nous la savons des plus positives malgré ses airs dévots et ses habitudes d'église. Deux et deux font quatre. C'est sa maxime. Et elle ajoute très volontiers « Le diable ni le bon Dieu n'y peuvent rien. » Car comme beaucoup de catholiques, elle ne croit guère aux miracles. Si vous ajoutez à ce caractère bien connu de forte colère, d'où surgissent des paroles qui les satisfont et qui surprennent dans la bouche d'une personne si bien sous tout rapport, le mot est d'elle, vous avez le type pur des dames de la Vierge. Il est ainsi décrit, incomplet. Cette vieille demoiselle n'a pas toujours été vieille et aurait fort bien pu ne pas avoir toujours été demoiselle. Si elle est née entre le 22 et le 31 août, elle a beaucoup lu, beaucoup rêvé dans sa première jeunesse. Elle a cultivé les arts, brillé dans les salons. Elle n'était pas insensible aux compliments des messieurs. Il se peut même qu'elle ait perdu dans leur intimité sa fraîcheur et ses illusions sur l'amour. Si elle est née entre le 1er et le 10 septembre, l'amour a décidément joué un grand rôle dans sa vie qui a été déchirée par Vénus. Elle a été mariée, elle a divorcé, ou elle est partie à l'étranger à la recherche de son amant, à moins que l'autre côté de son caractère, le côté timide, le côté devoir ne l'est emporté sur le côté passionné. Si elle est née entre le 10 et le 22, inclusivement, c'est la colère et l'orgueil qui dominent la modestie et la décence de la vieille demoiselle. Et encore, La colère et l'orgueil n'empêchent pas les manifestations fréquentes d'une compassion secourable. Il y a des infirmières nées à cette époque. Elles sont bonnes et pratiques, satisfont les chefs par leur attention minutieuse et leur ordre, mais redressent la tête froissée et gardent leur rancune. Revenons à la vieille fille typique du signe de la Vierge. Quand elle était enfant, on la citait en exemple parmi ses petites compagnes. « Vois la petite Laurence, disait-on, comme elle est tranquille et réservée, et toujours si nette. Ses cahiers sont bien tenus, pas une tache sur ses devoirs. Et affectueuse avec ça, intelligente. Elle n'est pas la première, mais elle n'en demande pas tant. Quel dommage qu'elle soit si souvent malade. » L'enfant répondait, « Laurence, une égoïste, il n'y a qu'elle qui compte. C'est une maligne, la Laurence. » Laurence devint institutrice dans une famille. Elle éleva parfaitement ses élèves et fut estimée des parents. En effet, Laurence était modeste et active à la fois. Elle avait des systèmes, des principes et une vue critique très juste. Elle aidait sa patronne ingénieusement dans les soins du ménage, mettait la main à la cuisine avec adresse et demandait des conseils au patron pour le placement de ses économies. Ses patrons aimaient son attention aux détails de la vie. Et quand elle eut un procès au sujet d'un héritage, ils admirèrent son habileté. C'est un héritage qui l'enrichit et non ses perpétuelles économies. « Vous auriez fait un bon banquier, lui dit son patron. « Mon rêve aurait été d'être écrivain, répondit-elle. « Poète ? Non. Ceci la fait rire, je ne suis pas folle. J'aurais été homme, j'aurais été prêtre ou écrivain pour le sérieux, le positif. » Elle eut, quand ses élèves furent grands, un petit emploi dans les postes. Elle s'y révéla femme de tête et n'eut jamais d'erreur dans ses comptes. Vis-à-vis de ses confrères, elle se montrait bonne camarade et leur donnait d'excellents conseils sur l'arrangement de leur petit ménage, leur cuisine, le placement de leurs économies. Elle était aussi quelque peu experte en objets anciens et en livres rares. Elle est parvenue à ce qui était l'idéal de sa vie, vivre de ses rentes, en ne dépensant jamais que le tiers de ses revenus. Mais un autre idéal de sa vie, ne jamais choquer personne, elle ne l'a jamais atteint. Les nonnes ont quelquefois des audaces étranges dans l'action et dans les propos. Dans l'un de mes livres, Le Cabinet Noir, la fille de la mercière, Madame Langlais, écrit à un jeune homme pour lui proposer le mariage. C'est là un coup qui ne m'aurait pas étonné du type de femme que j'étudie ici, la vieille fille minutieuse, fût-elle mariée ou mère.
De nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que restait-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le chef visage de mon passé. Mm-hmm. vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
C'est à présent l'heure du cabinet de curiosité. Il vous est sans doute arrivé, à l'écoute de cette émission, de vous demander si vous n'étiez pas victime d'une hallucination auditive. Vous n'auriez pas eu tout à fait tort. D'ailleurs, vous ne savez pas si le son que vous entendez vous parvient ou non par les oreilles. Ce pourrait être une voix dans votre tête. Et même si vous aviez la sensation que ces mots et ces musiques étaient passés par vos oreilles, cela ne prouverait en aucun cas qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. L'imagerie médicale prouve que les sujets atteints de ces troubles entendent bien réellement des voix. 10% de la population souffre ou a souffert de ce problème. Ces présences, ces filles du horla de Maupassant, possèdent une voix que leurs victimes ne peuvent chasser. Il peut s'agir de bruits ou de voix, et celles-ci peuvent être bienveillantes ou malveillantes. Les voix peuvent être perçues de différentes manières, soit provenant de l'extérieur, soit provenant de l'intérieur de soi-même. Elles peuvent sembler appartenir au sujet ou pas, communiquer avec elles est possible ou pas. Enfin, elles parlent à la deuxième ou troisième personne. Leur volume est celui d'une conversation normale. Elles sont généralement masculines et proviendraient d'individus d'âge moyen. Généralement limitées à la seule personne qu'elles occupent, les voix lui donnent des ordres, l'évaluent ou lui posent des questions. Elles incarnent donc une forme d'autorité. Pour mieux comprendre les hallucinations auditives, intéressons-nous à Vincent Demassiet, cet homme qui milite pour aider ceux qui sont victimes comme lui de ces voix, et parler d'une autre psychiatrie possible. Sonia Kronlund, sur France Culture, lui a consacré une émission. Plutôt que de s'attaquer aux causes puis aux conséquences, comme la médecine le pratique ordinairement, certains, dit-elle, offrent de changer de point de vue, d'adopter une perspective comportementaliste, pragmatique, qui permettrait de comprendre ce qui se passe, le comment plutôt que le pourquoi. Qui sont ces voix ? Que nous disent-elles ? Même si on ignore d'où elles viennent, on peut, en se mettant à leur place, en adoptant leur point de vue, les comprendre. À partir de là, une fois qu'on a pris la mesure de qui elles sont, on peut tenter de s'adresser directement à elles, à leur fonctionnement. Dès lors, les voix ne sont plus considérées comme un symptôme majeur de maladie mentale, une psychose, une manifestation de schizophrénie, mais comme un phénomène, une expérience dont on peut s'accommoder. Bref, il s'agit de ne plus être un cas psychiatrique, un schizophrène maintenu en camisole chimique. Vincent a entendu des voix depuis l'adolescence. Son père l'emmène même chez un prêtre exorciste. Après un début de carrière professionnelle, il sombre dans l'alcool et les médicaments. Sans cesse, des voix sont là pour l'insulter. Peu à peu, ses séjours en hôpital psychiatrique s'allongent. Il finit par peser plus de 200 kilos. Il perd ses amis et commet des tentatives de suicide. Son psychologue jette l'éponge. À cette époque, Vincent était hanté par des voix 80% de son temps et passait les 20% restants à y penser. Intervenaient principalement 5 voix qui ne cessaient de l'insulter, 4 d'hommes et une de femmes, certaines accompagnées de visages flous ou de formes, parfois localisé dans l'espace. C'est grâce à un groupe d'entendeurs de voix que petit à petit, Vincent a appris à leur répondre et à exiger d'elles qu'elles le laissent en paix. Une des voix lui demande par exemple de frapper son compagnon et de le tuer, sous peine de voir sa mère et son frère mourir et sa grand-mère revenir de l'au-delà. Vincent, terrorisé, lui obéit chaque fois et frappe son compagnon comme si la voix prenait possession de son corps et de sa volonté. L'ami encaisse et feint d'être mort, jusqu'à ce que sur les conseils de son groupe, Vincent finisse par résister aux ordres, ce qui lui demande un effort mental, mais aussi physique, considérable. Belle victoire sur cette voie qui, bien évidemment, est incapable de mettre ses menaces à exécution. De petite victoire en plus grande victoire, Vincent parvient à gagner la guerre, réduire au minimum la place des voix et leur faire accepter ses règles. Finalement, après avoir mené une longue guerre dont le facteur décisif fut sans doute la reconnaissance du traumatisme originel, une série de viols commis sur lui dans l'enfance, Vincent parvint à se libérer des voix et à se passer de médicaments. Aujourd'hui, il milite pour créer d'autres groupes d'entendeurs à travers la France, notamment au sein du réseau Rêve France. Vous allez entendre à présent une reconstitution effectuée par des scientifiques américains de ses hallucinations auditives.
So stupid. Look at you.
No, you can't.
Stupid. Stupid. Point on the left. Cars coming. Jump. Jump now. Jump in front of the car. Go on. Go on. Do it. Do it. No, no, no. Don't. Don't. Don't cross the road. You can't.
So
stupid.
Dirty.
Look at you.
Dirty.
Stupid. Stupid. Pointless.
Didn't touch you.
Worthless.
Did you touch that one?
Stupid.
Yes, you were. You touched them.
So stupid.
They look at you. I can see you sweating.
Stupid. Stupid.
I can see you.
Pointless.
They're looking at that.
Worthless.
She knows. She knows. Yes, look,
Cold Brew Coffee Futures and Professional Design Future Concept for her professional living and function, ready to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in Professional Design Future Concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures in Professional Design Future Concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication.
Leave me just enough love
in my hand if you go away, if you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your shadow if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go.
C'est à présent l'heure du bulletin d'écoute d'Armand Robin, lu par Marc Mercier. Aujourd'hui, nous passons à la période du 12 au 15 mars 1961.
This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on.
Numéro 24. La situation internationale d'après les radios en langue étrangère. Les aspects nouveaux du monde, quelques lueurs sur la pensée de Kennedy. Source principale, Voix de l'Amérique en anglais, russe, arabe, etc., etc. Les analyses précédentes restent exactes et ont été confirmées par de nouvelles écoutes. Rappelons-en l'essentiel, la radio d'État américaine, depuis la mise en place de Kennedy, a pris un ton plus distant par rapport aux événements, aux informations et dans l'ensemble est plus froide. Ajoutons, petit a, si j'ai bien compris, un nouveau directeur de la Voix de l'Amérique vient d'être désigné. En fait, ce nouveau directeur est avant tout un chef de l'information au département d'État, du moins si j'ai bien compris les brèves informations diffusées cette nuit. Si cela se confirme, cela signifierait des liens encore plus étroits entre la très gouvernementale Voix de l'Amérique et la Maison-Blanche. Petit b. La Voix de l'Amérique annonce cette nuit que les USA n'ont plus l'intention de reconnaître les ambassadeurs de la Lituanie et d'Estonie. Cependant, du moins pour le moment, les émissions en langue balte, notamment en lituanien, continueront sans changement et sans brouillage. Petit c. Nous avons souligné ici à plusieurs reprises et venons encore de rappeler que la principale caractéristique de la radio kennédiste semble bien être une plus grande froideur vis-à-vis du monde présent. Il y a une exception. La Voix de l'Amérique s'est mise à insister des heures et des heures, une déclaration officielle de Kennedy à l'appui, sur la nécessité de mettre sur pied un vaste plan d'aide à l'Amérique latine. Un plan de 10 ans est prévu et ses radios le comparent en importance au plan Marshall. Mais elles font une différence, le plan Marshall était destiné à aider un continent ruiné par la guerre, mais fondamentalement riche, tandis que l'Amérique latine a une économie restée pauvre. Dans le détail, notons que les deux pays les plus visés par cette aide sont le Brésil et le Chili. Les USA envisagent d'abord de renflouer les finances brésiliennes. La mise en valeur de la personnalité de Quarros peut indiquer que Kennedy songe aussi à former un tandem, surtout avec le président du Brésil. Les textes, tout d'abord celui de Kennedy, parlent constamment de la lutte contre l'indigence et contre la tyrannie en Amérique latine. Nous n'insisterons pas davantage, nos lecteurs ayant à leur disposition le texte de Kennedy. Soulignons cependant que le vaste programme de la solidarité américaine, qui fut diffusé chaque nuit pendant de nombreuses heures par la Voix de l'Amérique, et qui fut, par mesure d'économie, réduite au minimum vers 1952, n'a toujours pas été repris. Et cela ne tardera sans doute pas, ce serait dans la logique des choses. Au moment où nous finissons la Voix de l'Amérique, cette fois en langue pas brouillée, continue à diffuser tous les points de vue de l'administration Kennedy sur l'Amérique latine. C. Nous avons noté plus haut que certaines expressions de ces nombreux textes impliquent une action politique des USA contre les tyrannies en Amérique latine. Nous avons noté d'autre part quelque chose de tout à fait nouveau dans les radios nord-américaines, des prises de position pas du tout violente, mais très nette contre la présence de colonies portugaises en Afrique et même contre la personne de Salazar. D. Davantage d'attention accordée par ces radios à l'interminable conférence atomique de Genève. E. Dans l'ensemble, ces radios de l'État américain se comporte comme si tout conflit URSS-USA était exclu. La priorité donnée à l'économique rapproche d'ailleurs automatiquement les deux géants. Mais la Voix de l'Amérique évite soigneusement l'expression russe « coexistence pacifique » pour s'en tenir généralement à l'expression « coopération ». F. À l'instant, en son service en langue polonaise, la Voix de l'Amérique annonce un développement de ses programmes en direction de l'Amérique latine et de l'Afrique. Il est donc à prévoir l'apparition de puissantes émissions en langue de l'Afrique noire, les émissions en langue arabe étant déjà très développées. Bref, tout cela nous promet plus un nouvel aménagement économique qu'une nouvelle politique. Ajoutons que ces radios, tout en diffusant informations et chroniques sur cette révolution économique, ne font aucune démagogie à l'intérieur des USA. Au contraire, les textes tournent autour du thème de l'austérité, plus exactement du sérieux des mesures à prendre et de la nouvelle façon de vivre prévue pour les USA. C'est d'ailleurs ainsi que la BBC, elle aussi, présente les nouvelles perspectives nord-américaines. La France vue de l'étranger. Nos lecteurs peuvent s'étonner qu'en ce bulletin, nous ne parlions guère de l'Algérie. C'est tout simplement parce que les radios étrangères, y compris celles du monde russe, gardent le silence ou se montrent d'une extrême discrétion à ce sujet. De façon évidente, il y a une sorte d'entente concertée pour laisser la France seule en face du problème algérien. Cela devient plus évident quand on observe que, par contraste, beaucoup de ces mêmes radios ont signalé la grève des fonctionnaires qui vient de se dérouler en France. Une seule exception, la BBC diffuse un extrait d'un article du Daily Telegraph sur la situation à Alger. Fin du bulletin numéro 24. Aménagement de ce travail. Il restait à organiser l'acheminement régulier de ce bulletin. le porter personnellement à tous les abonnés de Paris représentait une perte de temps. D'accord avec les lecteurs habitant loin, je leur enverrai par la poste, ce qui me permettra de le porter régulièrement aux lecteurs proches.
Vous pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève. Vous avez entendu, par ordre d'apparition, Monica Zetterlund, Stella Cadente, accompagnée par Bill Evans, Stacey Kent, John Cage, Helen Merrill, accompagnée par Stan Getz, Marc Mercier et, en ce moment même, Herb Alpertz. Cela a été un vrai bonheur de vous savoir avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.